franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, elle était insoumise, brillante, parfois mordante. L'anthropologue Françoise Héritier vient de mourir. C'était l'un de nos plus grands esprits, grande figure du féminisme en France, anthropologue, ethnologue, femme et professeur au Collège de France. Vous entendrez sa voix dans un instant au micro d'Augustin Trapenard. Et puis Caroline Brouet, notre collègue de France Culture, qui a publié un livre d'entretien avec Françoise Héritier, sera avec nous. Françoise Héritier s'en va alors que le combat féministe est au cœur des débats. Dernier homme dans la tourmente, accusé d'agression sexuelle, l'ex-président du mouvement des jeunes socialistes, révélation de Libération ce matin. Le Parti socialiste demande des suites judiciaires. Voilà de quoi assurer du travail pour 6 ou 7 ans aux salariés d'Airbus. L'avionneur européen décroche un énorme contrat, 430 avions, plus de 40 milliards d'euros. Le président d'Airbus commercial, Fabrice Brégier, est l'invité de ce journal. Les agressions de pompiers en très forte hausse en France, plus 17% l'année dernière. Réaction d'un sapeur, malheureusement pas surpris du tout. Dans cette édition encore, les économies envisagées par le gouvernement dans le secteur de la culture. Le plus vieux des dictateurs vit-il ces dernières heures au pouvoir, sa tangue pour Robert Mugabe au Zimbabwe et l'évacuation du camp de migrants de Blida dans la région de Metz. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui c'est gris dans le nord et c'est soleil dans le sud.
Absolument, brouillard et nuages bas résisteront cet après-midi dans la moitié nord du pays. À noter des averses sous un ciel chaotique en Corse. Et partout ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. Les températures, toujours fraîches pour la saison, seront comprises entre 7 et 13 degrés. Ce sera plus doux dans le sud et le sud-est, avec des valeurs proches de 17 ou 18 degrés.
Plus de détails à la fin de ce journal. Journal qui verra aussi le choix cinéma de la rédaction M de Sarah Forestier cette semaine. C'est Jacqueline Pétrose qui viendra nous en parler. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. À l'heure où l'égalité entre les hommes et les femmes est plus que jamais au cœur des débats, une grande mais militante féministe vient de nous quitter. Françoise Héritier, anthropologue, ethnologue, professeure au Collège de France, elle avait succédé à Claude Lévi-Strauss. Il y a quelques semaines encore, vous l'avez peut-être lu, vu ou entendu dans les médias à l'occasion de la sortie de son tout dernier ouvrage, Au gré des jours. Le 23 octobre, elle était avec Augustin Trapenard sur France Inter. Question sur ce système générateur d'inégalités entre hommes et femmes.
La première chose que le système, comme vous dites, fait, c'est de nous inculquer, à nous, filles, enfin, je parle de mon temps, peut-être qu'on se reconnaîtra encore maintenant, ce qui serait tout à fait désastreux, mais tant pis, c'est de nous inculquer l'idée que nous sommes insuffisantes, inférieures, et que quoi que nous fassions, nous n'arriverons jamais à égaler le modèle des hommes libres, heureux, plaisantants, etc., et qu'il nous fallait rester derrière, enfin, un peu à l'affût de quelques miettes qui pouvaient tomber de la table des grands.
Sauf que vous êtes un parfait contre-exemple. Par quel hasard en êtes-vous venu à occuper le rôle qui a été le vôtre?
Parce que je suis insoumise, justement.
Par l'insoumission. Celui d'intellectuel, celui de professeur au Collège de France aussi, c'est
oui,
quelque chose.
Ça demande de l'insoumission. D'abord, je suis partie de chez moi, dès que j'ai eu 21 ans. Ça a été un clash familial terrible. Ensuite, je suis partie en Afrique à 22 ans. Et là aussi, ça a été un nouveau clash familial terrible. Je me suis mariée sur le terrain avec un autre ethnologue sans mes parents, et là aussi ça a été un clash. Vous savez, je crois que je n'ai fait que des clashs.
Vous êtes la reine des clashs, ouais.
Quand j'y repense.
C'est donc une clasheuse qui vient de nous quitter. Bonjour Caroline Brouet.
Bonjour Bruno.
Cher ami de France Culture, on vous entend le week-end et vous avez publié un livre d'entretien avec Françoise Héritier il y a quelques années, L'identique et le différent, c'était aux éditions de l'Aube. Au fond, Françoise Héritier, elle fait partie de ces femmes qui nous ont fait comprendre que les inégalités, c'était pas naturel ou pas seulement naturel.
Ah, c'est en tout cas sa grande thèse, en effet, hein, sur la domination masculine, même si c'est pas comme ça qu'elle en parlait. Elle en parlait du point de vue de la valence différentielle des sexes. Mais en fait, ça consistait à dire quoi? Que les hommes n'ont jamais accepté le fait que nous, les femmes, puissions reproduire le même et le différent, ouais. C'est-à-dire des filles et des garçons. Et du coup, les hommes ont eu à cœur de reprendre la main par le corps, ouais. Et de considérer que c'était eux qui mettaient la petite petites graines à travers le sperme, parce qu'elle a travaillé aussi sur les fluides du corps, justement, dans le corps de la femme, pour se réapproprier le corps de la femme, et donc se réapproprier ce pouvoir
retrouver une
sur
domination.
Les corps de la femme qu'il n'avait pas naturellement. Tout ça étant donc construit ensuite culturellement. Elle allait très très loin de ce point de vue-là.
C'est-à-dire
Non, mais elle disait même que physiquement, c'est parce que nous avions appris à manger différemment, à nous nourrir différemment du fait même de cette construction différentielle des sexes, que nous avions des corps différents. Là, en quelque sorte, votre musculature, Renaud, n'est pas naturelle. Elle a été construite au fil des ans. On peut discuter de cela. Elle allait très très loin de ce point de vue-là.
Et elle parlait en scientifique, mais aussi en militante.
Elle parlait toujours en militante. Enfin, en militante, je ne sais pas si le terme est exact. Elle préférait parler d'elle comme une anthropologue dans la cité. Vous savez, elle a aussi occupé des fonctions de présidente du Conseil national du SIDA, de 89 à 95. Elle a été aussi membre du Comité consultatif national d'éthique. Oui. Elle était très présente dans la cité, d'où c'est les récentes prises de position quant à la libération de la parole. Je l'avais également reçue au matin du samedi France Culture, le 21 octobre. Elle en parlait comme d'un immense espoir, d'un mouvement inédit. Elle n'avait jamais vu ça, disait-elle. Elle espérait que les choses changeassent.
Il faut un mot de portrait aussi, Caroline Brouet, de cette dame qui était joyeuse et qui aimait les plaisirs.
Alors c'est ça, c'est une grande anthropologue, mais c'était aussi une très grande dame. Je vous avoue que je suis très émue. J'essaie de masquer mon émotion parce que vous m'avez demandé d'intervenir, mais j'ai appris sa mort comme vous tous. Il y a 40 minutes, il vaut mieux pas que j'y pense. Oui. C'était une dame, vous savez, c'est très rare de rencontrer des personnalités de cette importance-là, qui vous font cet effet-là, qui vous marquent autant, qui ont autant de cœur. Elle parlait de ses amis qui étaient très importants pour elle, cloués sur sa chaise roulante depuis quelques temps maintenant, parce qu'elle était atteinte d'une maladie auto-immune depuis quelques années, qui l'affaiblissait. Elle était effectivement très affaiblie. Elle parlait de ses amis qui venaient lui apporter le samedi matin des croissants et de l'importance pour elle qu'ont constitué tous ses amis, et en particulier ces derniers temps. C'est quelqu'un qui avait une grandeur d'âme inversement proportionnelle à sa taille et une âme d'enfant à 84 ans totalement intacte. C'est une très grande dame que nous perdons aujourd'hui.
Merci beaucoup Caroline Brouet d'être venue nous en parler. Je précise que Mathieu Vidard consacrera une émission spéciale à Françoise Héritier à 14h, émission spéciale de la tête au carré. De l'utilité du combat féministe, un nouvel homme sous les accusations, et on ne parle pas d'un vieux porc, on parle d'un jeune homme. Ce jeune homme évoluait en plus au cœur d'un univers qui prêche, et heureusement, l'égalité entre les hommes et les femmes. Accusation de harcèlement, d'agression sexuelle, le dernier personnage public dans la tourmente est donc l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes entre 2010 et 2013, Thierry Marshall-Beck. Avant d'aller plus loin, il faut dire aussi que même en cette époque où la parole se libère à propos de harcèlement, la présomption d'innocence existe, c'est dit et souligné. Le journal Libération publie donc une enquête longue, fouillée, accablante au sujet de Thierry Marshall-Beck, témoignage de 8 femmes militantes du MJS. Beaucoup de cadres, écrit également Libé, connaissaient le comportement de l'ancien président. Frédéric Mettezo a joint Régis Juanico, il est député PS de la Loire et ancien président lui aussi du MJS.
Surpris et surtout choqué, je veux dire à quel point moi je suis révulsé par ce comportement inexcusable, inqualifiable. Il faut que la justice passe, que les filles qui ont témoigné de ces agressions, de ces violences sexuelles commises par Thierry Marshall-Beck soient soutenues, soient accompagnées et qu'elles puissent porter plainte et que cette affaire débouche. Car bien évidemment, on ne peut pas, dans une organisation de jeunesse, avoir d'un côté des discours publics, féministes, pour l'égalité homme-femme, et puis avoir des comportements aussi éloignés dans la pratique privée.
Vous en parlez de façon affirmative.
Je dis tout simplement qu'il y a aujourd'hui des témoignages nombreux de jeunes filles qui disent avoir été agressées sexuellement, et que je n'ai aucun doute.
Autre réaction, celle de la militante féministe Caroline Dehas, qui il y a quelques semaines initié une pétition demandant un plan d'urgence pour l'égalité entre hommes et femmes. C'était dans le journal du dimanche. Caroline Dehas avec Mathilde Doimy.
Si en effet, même au sein d'organisations conscientes du problème, même actrices contre les violences, on retrouve ce type de cas, ça veut dire que partout en France, ces problèmes sont réels. On essaye toujours, quand il y a une nouvelle affaire de violence qui sort, de trouver des circonstances atténuantes. Oui, mais là, c'est la politique, c'est pas pareil. Oui, mais là, c'est Hollywood, c'est pas pareil. Bon, à force de pas pareil, en fait, c'est pareil partout. La principale partie des violences ont lieu à l'intérieur des familles, dans le foyer. Dans 80% des cas, par exemple, le viol est commis par quelqu'un que la victime connaît. Et donc, la société, il faut maintenant qu'elle comprenne que ces violences sont systémiques, elle s'exerce partout, et que si on veut les faire reculer, il ne suffira pas simplement d'une prise de parole du président de la République le 25 novembre. On a besoin de moyens financiers qui soient mis sur la table pour former de manière systématique l'ensemble des professionnels pour éduquer dès le plus jeune âge à la non-violence et pour faire en sorte que les sanctions qui existent dans la loi soit enfin appliquée par la justice.
Et à propos des révélations de Libération ce matin dans le journal Libération, le Parti Socialiste demande des suites judiciaires. Accusation d'agression sexuelle et même de viol sur une fillette, infamie suprême en Bourgogne. C'est un instituteur qui était mis en examen, accusé par l'enfant. L'enquête amène à douter de la parole de la petite fille et la mise en examen a été levée ce matin. C'est un métier qui fait rêver les enfants, les soldats du feu, ceux qui portent secours à des gens en difficulté. L'idée que les pompiers puissent être agressés lors d'interventions a quelque chose d'assez inconcevable. Et pourtant, 2280 pompiers disent avoir été agressés lors d'une intervention l'année dernière. Le chiffre est en hausse de 17,6% par rapport à 2015. La petite limite de ces statistiques, c'est ce sont uniquement des déclarations, mais la tendance est très nette. Le nombre de jours d'arrêt de travail explose, par exemple. La région la plus touchée, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est là que se trouve le syndicat de Jean-Michel Piedalu. Il est secrétaire général de ce syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Il n'est pas surpris du tout.
Je suis rentré sapeur-pompier dans les années 1980. Entre 80 et 90, ça n'existait pas. Ça débute à partir de 94, ça s'amplifie 96-97, et puis aujourd'hui, c'est devenu complètement banalisé. Ça ressemble à des agressions verbales, des crachats, des insultes. Derrière, c'est des agressions physiques. J'ai des souvenirs, effectivement, d'agressions personnelles, des guet-apens dans lesquels on était amené. On partait pour un feu de poubelle, on était dans une venelle, et là, on avait une cinquantaine de jeunes cagoulés qui venaient avec les pierres et ainsi de suite. Et ça, c'est dramatique parce qu'on n'est pas, nous, en tous les cas, formés à ce type de situation. J'ai toujours dit qu'on avait une chance inouïe. C'était qu'un jour, un conducteur perde éventuellement ses moyens, qu'il prenne peur et qu'il fonce sur ces jeunes. Ça n'est jamais arrivé, tout le monde a toujours gardé son sang-froid. Ça, c'est du grand bonheur, mais j'espère que ça n'arrivera pas.
Un propos recueilli ce matin par Philippe Randé. Kouachi, Abdeslam, Mera, Nemouche, quelques noms de djihadistes sont comme ça, connus du grand public et associés aux attaques terroristes ces dernières années en Europe. Mehdi Nemouche, c'est le tueur du musée juif de Bruxelles, 4 morts le 24 mai 2014. Il a fait l'aller-retour dans la journée ce mercredi sous garde très serrée entre sa prison bruxelloise et le pôle antiterroriste au palais de justice de Paris. Mehdi Nemouche, mis en examen pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est un autre volet de son parcours de mort qui intéresse la justice française. Nemouche, le geôlier de 4 anciens otages français en Syrie.
Lorsque les 4 journalistes français, Nicolas Hénin, Didier François, Pierre Torres et Édouard Elias sont libérés, après avoir été détenus 10 mois durant par le groupe terroriste État islamique en Syrie, ils ignorent encore qui était ce geôlier par le français surnommé Abou Omar le Cogneur. Mais un mois plus tard, Mehdi Nemouche est arrêté à Marseille, soupçonné d'être l'auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles. Les anciens otages reconnaissent alors celui qui maltraitait régulièrement les prisonniers. Quand Mehdi Nemouche ne chantait pas, il torturait, témoigne Nicolas Hénin. Selon le journaliste, le djihadiste français d'aujourd'hui 32 ans, qui s'était radicalisé en prison avant de rejoindre la Syrie, était régulièrement présent sur leur lieu de détention entre juillet et décembre 2013. Ce matin, devant le juge d'instruction, Mehdi Nemouche a refusé de répondre à toute question. On va d'abord consulter le dossier, mais il s'exprimera bien dans cette affaire, assure son avocat. Quelques heures à peine après son arrivée à Paris, Mehdi Nemouche, lui, est reparti, escorté par le GIGN jusqu'en Belgique et la nouvelle prison où il a été récemment transféré pour pouvoir bénéficier de soins car il souffrirait notamment de troubles importants de la vue et de l'audition.
Le mutisme des djihadistes face aux magistrats. On apprend à l'instant que dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre, il y a eu aujourd'hui une nouvelle audition de Salah Abdeslam et qu'il est resté silencieux. La panne du jour sur le RER à Paris, consonne ou voyelle? Consonne aujourd'hui, c'est la ligne C du RER. Beaucoup de perturbations à cause d'un incendie à l'entrée du tunnel de la gare Meudon-Valfleury.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Bonjour, je voudrais vous commander 430 avions, s'il vous plaît. On parle fréquemment de contrats records. C'est vraiment le cas pour celui annoncé par Airbus ce matin au salon aéronautique de Dubaï. 430 A320 et 21 Neo, vendus à un fonds d'investissement Indigo Partners, qui loue lui-même les avions à des compagnies low cost. Montant du contrat, 42 milliards d'euros. Du travail pour très longtemps pour les salariés d'Airbus. À Toulouse, Frédéric Bourgade.
Les salariés d'Airbus ont le sourire à l'image de Christophe.
C'est énorme en termes de volume et en termes de temps de travail. Pour livrer ces avions, ça fait beaucoup de travail pour nous, c'est bien, une bonne nouvelle. Pour Toulouse, pour la région aussi, c'est pas que pour Airbus, c'est aussi pour tous les gens qui sont autour.
Ça veut dire que Airbus, cette année encore, sera devant Boeing. Ça, c'est une fierté.
Oui, c'est une petite guéguerre qui existe depuis toujours. On est fiers, on est français.
Cette vente record d'A320neo prouve en tout cas qu'Airbus a eu le nez creux en lançant ce programme il y a seulement 7 ans en arrière. Avec plus de 5000 exemplaires commandés, il est désormais l'avion le plus vendu au monde, ce qui est bon pour les finances d'Airbus et pour les programmes futurs, estime Laurent.
C'est une très bonne opportunité pour alimenter Airbus. Oui, c'est une commande qui reste exceptionnelle, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier les autres programmes qu'on doit entretenir, qu'on doit faire vivre pour cette belle économie et tout ce qui est autour de ça. Quoi.
Les salariés attendent aussi qu'on vende des A380. Il ne s'en est pas vendu un depuis 2 ans. Le compteur reste ainsi bloqué à 317 exemplaires. Et dans les bureaux d'études, les ingénieurs attendent aussi un nouveau programme pour anticiper l'avenir. Marie.
On espère que ça va créer des emplois. Par contre, on attend toujours un nouveau programme pour employer les ingénieurs. Mais l'A380, il fait son chemin. On est assez fiers, quoi.
Avec cette commande, Airbus finira cette année encore devant Boeing. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Invité de ce journal, un homme qu'on imagine assez heureux, Fabrice Brégier, président d'Airbus Commercial. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On parle fréquemment de contrat record. Là, vraiment, l'expression s'applique, Fabrice Brégier.
Ah oui, 430 appareils, c'est la plus grosse commande de l'histoire de l'aéronautique. On en avait déjà gagné des grosses pourtant, de l'ordre de 250 appareils. Ça s'explique par le fait que 4 compagnies aériennes ayant le même actionnaire se sont regroupées pour leurs besoins à long terme.
Alors justement, ce qui est intéressant, l'un des aspects intéressants de cette histoire, c'est que c'est pas une compagnie qui vous achète directement les appareils, c'est un fonds d'investissement qui au fond est un loueur. Les clients maintenant d'Airbus, ce sont des loueurs pour des compagnies low cost ?
Alors souvent oui, mais dans le cas présent, ce fonds d'investissement est actionnaire de ces 4 compagnies aériennes qui achèteront chacune en fonction de leurs besoins. Et donc c'est une commande un peu groupée, comme on peut le voir dans les chaînes de grande distribution.
Et ça raconte aussi quelque chose de l'évolution du business de la vente d'avions. Ce sont les low cost qui aujourd'hui font le chiffre d'affaires aux avionneurs comme vous ?
Pour le modèle dont on parle, c'est-à-dire l'A320, qui est vraiment une success story incroyable d'Airbus, oui, absolument, le marché se développe. En Europe, c'est par exemple EasyJet, mais on trouve aussi Air France, Lufthansa ou British Airways qui achètent beaucoup de ces appareils. Mais le modèle mondial des low-cost se développe à une vitesse incroyable.
Ça fait du travail aux salariés d'Airbus. Pour combien de temps un tel contrat, monsieur Brégier ?
Alors on a un carnet de commandes de pas loin de 7000 appareils, mais cette commande est substantielle, ça sera des livraisons après 2020. Je pense qu'on peut dire que pour la France, ça sécurise environ 4000 emplois sur 6 à 7 ans. C'est à peu près les estimations que l'on peut avoir chez Airbus et nos fournisseurs français.
Ce programme A320neo, c'est un des best-sellers chez vous. Comment est-ce qu'on explique le succès de cet avion-là en particulier ?
D'abord le marché qui est très dynamique, ensuite c'est un appareil qui est le plus confortable de sa catégorie et qui est le plus économique. Et donc nous avons une part de marché qui est près de 60%. Le concurrent Boeing est très agressif évidemment, ne nous laisse pas le champ libre, mais nous avons la chance d'avoir développé le meilleur appareil, c'est-à-dire la meilleure famille d'appareils dans cette catégorie.
Bon monsieur Brégier, vous vendez vos petits et vos moyens avions, vous n'arrivez pas à vendre le gros, qu'est-ce qui se passe avec la 380 ?
On les vend tous bien, mais c'est vrai que le marché de la 380 est très étroit. C'est un appareil fantastique. J'ai volé à Dubaï en A380 et tous les passagers étaient ravis. Mais effectivement, les compagnies aériennes considèrent qu'elles préfèrent ne pas prendre de risques avec, à ce moment, des appareils un peu plus petits. Donc, à nous de passer cette phase. Nous sommes en discussion avec Emirates pour quelques commandes supplémentaires et de promouvoir cet appareil qui est fantastique pour gagner des parts de marché et relier des grands hubs aéronautiques. Il faut savoir qu'à Londres, qui est un aéroport très saturé, plus de 10% des passagers volent de Londres ou à Londres en A380.
Jusque-là, Fabrice Brégier, Boeing était devant Airbus en termes de commandes cette année. Là, vous leur repassez devant. Cette guerre, appelons-la médiatique, elle est importante pour vous ? Voilà, cette comparaison permanente Boeing-Airbus ou c'est quelque chose de purement médiatique ?
C'est toujours important d'être meilleur que son concurrent. Mais ce qui compte pour Airbus, c'est globalement d'avoir au moins 50% de part de marché. On livre pour l'instant un tout petit peu moins d'avions que Boeing, mais on a un carnet de commandes qui est légèrement supérieur. Donc on peut dire qu'on est en gros sur la même ligne. Et croyez-moi, face à Boeing et au soutien incroyable dont il bénéficie, c'est déjà un très très beau résultat.
Merci Fabrice Brégier d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Au revoir.
Entretien réalisé il y a un petit peu moins d'une heure au téléphone. En Afrique, le plus vieux dictateur du monde vit-il ses dernières heures au pouvoir? Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Robert Mugabe, 37 ans à la tête du Zimbabwe, tout près de l'Afrique du Sud. Officiellement, il est toujours à la tête du pays, mais l'armée a bel et bien pris la main ces dernières heures.
Oui, ce n'est pas tout à fait un coup d'État. Mugabe se dit assigné à résidence, mais c'est une vraie guerre de succession à l'ancienne. Une tentative d'empoisonnement, une fuite à l'étranger, une femme fatale, le Parti communiste chinois et l'arrivée en ville des militaires. Reprenons. Au mois d'août, le vice-président, surnommé le crocodile, est victime d'une intoxication. On évoque un empoisonnement à la crème glacée, ourdi par la femme du chef, Grace Mugabe, celle qui rêve du poste afin d'être en première ligne lors de la succession du camarade Bob, 93 ans quand même. Le crocodile, limogé la semaine dernière, se réfugie en Afrique du Sud et agite son fidèle lieutenant, le chef d'état-major, lui aussi un historique de l'indépendance et lui aussi très opposé à cette monarchie familiale qui se dessine dans l'ombre de Grace Mugabe, 52 ans, proche de la jeunesse, colérique, friande du luxe, du pouvoir et de l'héritage. Au retour d'une visite à Pékin, où il a probablement obtenu le feu vert du Parti communiste, le chef d'état-major défie la présidence, puis envoie les chars hier soir encercler la résidence. On en est là, dans cet entre-deux, l'armée fidèle au vice-président d'un côté, et la jeunesse proche de Madame Gucci, son surnom de l'autre, et au milieu, un vieux dictateur sénile, en bout de course, dont le bilan économique et social après 4 décennies de pouvoir est un pur désastre.
La France peut-elle dénouer la crise entre Arabie et Liban? Jean-Yves Le Drian à Riyad à partir de ce soir. Il compte bien rencontrer Saad Hariri, le premier ministre libanais démissionnaire et qui est toujours en Arabie. Il est moins peuplé que le camp de Calais à l'époque où il était ouvert, mais le camp de Fortune, camp de migrants de Blida dans la région de Metz, est l'un des plus importants de France. Quelques 800 personnes entassées sur un parking. Ce camp est évacué depuis ce matin et Noémie Bonin, pour beaucoup, c'est un soulagement de partir.
Parmi ces centaines de migrants, Aïché attend avec sa famille.
Pour vivre tranquille. Hein.
Aïché vient du Kosovo. Ça fait 4 ans qu'elle vit en France avec son mari et ses 5 enfants. Aujourd'hui, elle est soulagée de quitter ce camp.
Oui, et c'est contente. C'est, normalement, c'est chaud. Les enfants peuvent aller à l'école et tout.
Tout comme sa fille, Syriana, âgée de 11 ans.
Parce qu'on n'a pas chaud.
Pour dormir, c'était
oui.
Comment
C'est froid. On a peur.
Est-ce que vous savez où vous allez?
Non, pas encore. On attend.
En fait, ces 800 migrants sont éparpillés partout en France. La préfecture de Moselle parle d'une 40aine de villes différentes en fonction des places d'hébergement d'urgence disponibles. Ce démantèlement, c'est une bonne chose, même si de nombreuses questions restent en suspens pour Malika Tounsi, responsable des programmes de l'ONG Médecins du Monde à Metz.
C'est vrai que les bidonvilles à Metz, maintenant, le premier s'est installé en 2013. Situation qui dure depuis trop longtemps, qu'on espère ne plus revivre parce que c'est de plus en plus éprouvant. D'autant plus qu'il y a quand même des personnes qui avaient des pathologies assez lourdes, beaucoup d'enfants, de femmes enceintes.
Et c'est l'une des particularités justement des migrants de Blida ici à Metz. Les 2/3 sont des familles, ce qui complique évidemment encore les procédures.
Les chiffres de la sécurité routière pour le mois d'octobre, ils ont tendance à être en hausse tous ces derniers mois. Le nombre de morts sur les routes est stable en octobre, nous apprend à l'instant l'agence France Presse.
Le journal de 13h sur France Inter.
À quoi ressemblera le monde de la culture au terme du quinquennat Macron? Y aura-t-il eu des économies à tous les étages, économies pertinentes ou pas? Le débat est ouvert, en particulier depuis la publication de ce qui n'est qu'un document de travail du ministère de la Culture dans le journal Le Monde cette semaine. Il y a un volet audiovisuel public dont on parlait hier dans ce journal, qui propose notamment de fusionner les différentes entreprises publiques de télévision et de radio, une sorte de BBC à la française. Mais il y a bien d'autres chapitres. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Les pistes pour réformer mais la création, les musées, les archives, c'est tout le système de la culture en France qui pourrait être revu.
Ouais, je peux vous dire que le comité technique d'administration centrale prévu demain au ministère s'annonce des plus houleux. Des organisations syndicales sont furieuses. Elles ont découvert l'existence de ce rapport en même temps que tout le monde en lisant le journal. Pas de concertation, une réforme destinée, selon elles, à dégraisser un mépris total de la politique culturelle. Voilà en quelques mots le sentiment de Valérie Renaud. Il est le secrétaire général de la CGT Culture.
On n'arrive plus à parler des politiques culturelles avec eux. Ils sont en train de faire ça dans notre dos, sans nous, de manière extrêmement brutale. Lorsqu'on parle d'archives, il n'est question que de kilomètres linéaires. Lorsqu'on parle d'archéologie préventive, il n'est question que de marché public. Lorsqu'on parle de musée, il n'est question que de transfert, voilà, et ou d'externalisation. C'est tout simplement le devenir du ministère de la Culture.
Alors, on peut approfondir à travers quelques exemples. Dans le domaine de la création artistique, le rapport préconise de faire davantage tourner les spectacles pour qu'ils soient plus rentables, de mieux adapter l'offre aussi aux attentes du public. Les grandes opérations nationales type Journée du patrimoine ou Fête de la musique seraient portées par des établissements publics tête de réseau. Pareil pour les musées, réunis sous une seule et même entité capable de rivaliser avec le privé. On a bien vu ces derniers temps le succès, par exemple, de la Fondation Vuitton, qui aligne les records d'entrée, la collection de Chouquine, le MoMA à Paris. Et puis, il y a la question des archives. 7 millions d'économies annuelles envisagées en réduisant de 10 à 20% le flux de la collecte, ce qui fait bondir Cécilia Rapine. Elle est secrétaire générale adjointe de la CFDT Culture.
Ils partent sur une idée complètement fantasmagorique de tout dématérialiser, avec des aspects comptables qui sont complètement faux parce que ils n'envisagent absolument pas la sauvegarde des données, le transfert des données. Ils font une analyse comptable sur un one-shot. Ce n'est absolument pas une politique patrimoniale. Et alors, le terme qui est absolument atroce, c'est archives essentielles. Mais alors, qui décide de l'archive essentielle? C'est quand même dramatique.
Voilà, les syndicats ont sans doute ont appelé à la mobilisation. Ils seront dans la rue demain pour dénoncer ce qu'ils voient déjà comme une tentative de privatisation de la politique culturelle.
La saison des prix littéraires après les grands, les lycéens et le Renaudot des lycéens va à Kauter Adimi pour Nos richesses aux éditions du Seuil. Demain, le Goncourt des lycéens. Les sorties cinéma du mercredi. Deux portraits de femmes cette semaine. Marilyn, le deuxième film de Guillaume Gallienne. Une jeune fille de province rêve d'être comédienne à Paris. C'est Adeline Hermy de la Comédie française qui porte le rôle titre. L'autre film, derrière la caméra et dans le rôle principal, Sarah Forestier. Le film s'appelle M.
Sous les étoiles.
Des fois, tu vois, en fait, des fois, j'ai envie. J'ai envie de dire quelque chose.
Quand c'est quelqu'un qui t'impressionne, il faut que tu l'imagines à poil.
Mes mains se perdent.
Ah oui, c'est pas mal comme truc, tiens. Quand une jeune
ça a
fille...
l'air de marcher.
Oui. L'histoire, bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour.
L'histoire, je fais le pitch. Quand une jeune fille bègue rencontre un arrêt de bus, un homme joué par Redouane Arjan. Il demande son chemin, elle lui répond par écrit, elle est bègue. Il ne sait pas lire. Nous voilà bien, c'est le début de l'histoire. C'est de ce film que vous avez choisi de parler, M. Jacqueline. Qu'est-ce qui vous a plu au fond?
La sincérité.
Bon.
La sincérité de Sarah Forestier et de Redouane Arjan. Et puis la mise en scène est efficace sans emphase. Donc ça c'est très agréable parce qu'on les suit qui s'apprivoise. Et c'est vraiment une belle histoire d'amour entre cette jeune fille qui est lycéenne, hein, qui est vulnérable, mais à qui il manque juste une petite étincelle pour s'en sortir.
C'est le moment du bac pour elle. Oui.
C'est le moment du bac pour elle. Elle peut pas parler. Hein. Franchement, elle est paralysée. Et puis lui, en fait, c'est un homme qu'elle double de son âge, qui a un petit cahier de cité, enfin qui fait des courses de voiture façon James Dean, vous voyez, qui se lance et puis arrive au mur et s'arrête juste à temps. Et puis cet homme, et bien en fait, il est profondément blessé depuis son enfance parce que sa mère l'a rejeté. Il a vraiment vécu sans amour. Et eux deux, mais ils vont s'apprivoiser, apprendre vraiment l'un de l'autre comment s'en sortir et comment être plus fort face à la société. Il y a des comédiens formidables. Il y a la petite sœur qui est jouée par Liv Arden, qui est une petite délurée, complètement sauvageonne, qui est formidable.
Il y a
Jean-Pierre Léo, alors
voilà.
Là, le père de Lila, bon, ça est extraordinaire. Voilà, ça c'est vraiment un film qui, malgré les terrains vagues, les dortoirs un peu sinistres des cités, eh bien, beaucoup de poésie. Et puis Sarah Forestier est naturelle, sans maquillage hein, dans le film.
Oui.
Et puis c'est aussi les sentiments qu'elle filme. Alors c'est touchant, sans mièvrerie et sans être donneur de leçons.
Ça s'appelle M, c'est donc au cinéma cette semaine 2 et avec Sarah Forestier. Et c'est le choix de Jacqueline Pétrose. La météo.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagner. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Sous la grisaille, il fera frais dans le nord et le nord-est. Ne comptez pas plus de 6 degrés à Langres, 7 à Nancy, Strasbourg et Mulhouse, 8 à Dijon. À peine 10 degrés dans la capitale, ce sera un peu mieux dans l'ouest avec 14 degrés à Brest et à Cherbourg. Et vous apprécierez un peu plus de douceur dans le sud et le sud-est où l'on attend 16 degrés à Montpellier et à Marseille et jusqu'à 18 degrés du côté de Nice et d'Ajaccio. Au nord de la Loire et de la région parisienne aux frontières de l'Est, sans oublier le Val-de-Saône, la grisaille restera d'actualité. Toujours des averses en Corse sous un ciel chaotique et partout ailleurs, vous allez profiter d'un bon ensoleillement. Demain, on retrouvera le même type de temps avec de nombreux brouillards au nord de la Loire et de la Bourgogne aux frontières de l'Est. Ailleurs, le soleil restera au menu de la journée.
Et un tout petit mot à propos du ciel, un épisode de pollution aux particules fines prévu par Air Paris demain en Île-de-France. On arrive au seuil d'information, pas le niveau d'alerte, mais tout de même pollution aux particules fines.